La grande matinale, le mag, nouvelle formule. C'est parti pour une heure de culture et de société avec, comme chaque matin, Charline Vanhoenacker, tout à l'heure, qui nous racontera le Venezuela à sa manière. Daphné Burki, qui nous présentera sa nouvelle tête. Un garçon qui met des pantalons pas de def et qui chante. Et notre débat du jour, à 9h20, que dit le succès de CNews, sacrée première chaîne d'info en France. En 2025, le bilan des audiences annuelles est tombé la semaine dernière, mais tout de suite... Le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Charlotte Rampling a tourné avec tous les grands, Visconti, Borman, Woody Allen, Alan Parker, Sidney Lumet, Paul Verhoeven, François Ozon, Patrice Chéreau. Elle sera à l'affiche mercredi du film de Jim Jarmusch, couronné d'un lion d'or. Father, Mother, Sister, Brother raconte ces familles où les liens se distendent, les mots s'effacent, reste le malaise et les questions sans réponse. C'est doux, amer, grinçant et pas comme d'habitude. Jarmusch filme des vieux parents qui se fichent de leurs enfants, qui n'en ont rien à cirer, qui ne veulent pas s'en encombrer. On voit rarement ça au cinéma. Alors je me suis demandé, comment Charlotte Rampling a-t-elle fabriqué cette interminable séquence de tea time entre une mère ultra guindée et ses filles qui n'arrivent pas à se parler? Tant de gêne et de silence. En 60 ans de carrière, parions que Rampling a eu le temps de réfléchir à ces non-dits qui crèvent l'écran et qui habitent nos vies. Portrait numéro 67. Bonjour Charlotte Rampling.
Bonjour. Et merci.
Father, mother, sister, brother, c'est ce triptyque, trois histoires autonomes, trois familles, trois pays. En ouverture, il y a Tom Waits et ses enfants de cinéma. Ensuite, il y a vous et vos filles de cinéma, Kate Blanchett et Vicky Creeps. Avec une petite question d'abord, cette expression qui revient de sketch en sketch dans le film de Jarmusch, « Bob's your uncle ». Moi qui ne parle pas anglais et qui regarde le film avec des sous-titres, c'est sous-titré « Robert est ton oncle ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Il ne faut pas le comprendre, justement.
C'est vrai ?
En fait, ça, on ne va pas dire d'où ça vient, ça, ce n'est pas intéressant, mais ça existe un petit peu depuis, on m'a dit, 1924, pour différentes raisons politiques, d'ailleurs, je pense, mais plutôt amusant. Et c'est devenu une expression quand on dit, ben voilà, j'ai fait ça, et finalement, j'ai fait ça, et voilà, Bob's your uncle, c'est comme si, et voilà tout a fini plus ou moins bien. Voilà, le tour est joué, voilà.
Le tour est joué.
Ben, vous l'avez trouvé, bravo.
Vous êtes arrivée, Charlotte Rampling, en France quand vous étiez petite fille, vous aviez quel âge ?
J'avais 10 ans.
10 ans. Vous parliez anglais, vous parliez français à ce moment-là ?
Du tout. Fille de militaire, donc notre poste était à Fontainebleau. Et mes parents ont décidé pour apprendre le français, ils les mettent dans une école. Moi, on était protestants, mais on m'a mis dans une école catholique, voilà, où personne ne parlait anglais. Personne ne parlait anglais, donc voilà.
Du jour au lendemain. Qu'est-ce qui résistait dans le français ? Qu'est-ce qui vous a paru si difficile pour une petite fille dans cette langue, dans cette nouvelle langue?
On ne connaît pas les nouvelles langues si on ne connaît pas de langue. Donc on connaît une autre culture, une autre vie. On est planqué justement dans un mystère. Parce qu'on ne comprend pas. Moi, j'étais sur le banc d'école, vous savez, avec toutes les petites filles et les garçons. Là, jour après jour, je ne comprenais pas. Et à un moment donné, des choses commencent. Donc mon imaginaire a dû... Moi, je ne me souviens pas trop de tout ça. Parce que c'était une vie en silence à moi-même, que tout le monde parlait autour. Et finalement, après un long moment, on commence à comprendre et on commence à prendre des repères. Mais c'est très curieux comme exercice. Et j'adorais la France, parce que de l'Angleterre en France, là, le continent français, parce qu'on faisait beaucoup de voyages dans nos petites voitures, c'était magique pour moi, la France.
Pourquoi ?
Comparé à l'Angleterre. Ben, l'Angleterre était très, dans les années 50, après la guerre, les bombardements ont été énormes dans tout le...
Oui.
Voilà,
oui.
Donc, c'était, on était rationing pour le food, on essayait un petit peu...
Vous étiez rationné.
Oui. Parce que ce n'était pas comme la France.
C'est intéressant parce que si, en France, les années juste d'après-guerre ont été très difficiles, aussi probablement moins qu'en Angleterre à cause des bombardements, mais c'est vrai que le récit de la victoire britannique tellement éclatante, ces Anglais du côté des Alliés, a probablement effacé ces années d'après-guerre qui ont été d'une noirceur et d'une dureté terrible, et on les raconte jamais,
non,
ces années-là. Et ça, c'est votre enfance.
Voilà.
C'est votre petite enfance.
Mon petit enfant. Et puis tous les enfants qui revenaient justement, qui étaient envoyés des centaines dans les campagnes. Donc c'était les années 50 en long, c'était très très dur. Et là, la France, c'était... C'était.
Où est-ce que vous vous sentez aujourd'hui entre la France et l'Angleterre?
Ah, vraiment au milieu, peut-être au milieu.
Au milieu.
De la Manche.
Voilà, au milieu de la Manche. Cette avec manche, une petite bouée.
Voilà, cette manche qu'on va maintenant en dessous. Ça, c'était un miracle. Là. Je dis, mais on va en dessous la Manche. C'est ça.
Et pour vous?
Parce que moi, j'étais toujours flottant au milieu de la Manche.
C'est ça. Et quand vous êtes actrice, pour vous, jouer en anglais, jouer en français, pour vous, c'est vraiment deux mondes et deux univers différents ou plus du tout aujourd'hui?
Non, c'est différent. Quand Pourquoi je parle en français, je me sens différent. Et pas différent, mais c'est des autres branches de mon tronc. Mon tronc, je sais pas, c'est anglais, je suis complètement English. Ni Pays de Galles, ni Irlande, ni Iran, ni écossais.
Précisez, allez-y, précisez.
Non, je précise parce que je voudrais avoir un petit peu de fantaisie irlandais, écossais et Pays de Galles, mais je ne l'ai pas, je suis English.
Vous n'avez pas l'humour anglais?
Si, quand
ah,
même ça.
Ah, ben voilà, voilà. Pas la fantaisie, mais
heureusement,
l'humour.
Heureusement, c'est peut-être ça qui m'a sauvé. Mais le mélange, pour moi, le mélange d'être, comme je me considère, anglaise, mais en ayant vraiment adopté la France.
Alors, je vous fais...
Le mélange est formidable pour moi.
Écoutez un extrait de Father, Mother, Sister, Brother, qui sera au cinéma à partir de mercredi. Je vous l'ai dit, c'est le tea time le plus malaisant de l'histoire du cinéma américain, parce que je suis sûre que les Anglais en ont filmé d'autres, mais Jarmusch est américain, donc c'est le regard d'un Américain sur une mère qui sert le thé à ses filles. Alors imaginez une maison cossue, une pelouse parfaitement tondue, une table remplie de pâtisseries magnifiques avec des petits bouquets colorés. La mère et ses deux filles ne se voient qu'une fois par an.
So, shall I be mother?
You might as well start sometime.
Thank you. Wonderful to see you both. Thank you for coming.
Thank you, Mummy.
Thanks, Mum.
That looks delicious. Where do you get that from again?
Oh, there's my very favourite little shop in town that always has all the things I like.
Love them.
C'est terrible la radio, Charlotte Rampling. C'est-à-dire que pour arriver à passer un extrait de ce film et de cette grande séquence de Tea Time, qui n'est que silence, malaise et tension, on est obligé de choisir le seul moment où on parle. Parce qu'on n'a pas l'image, on n'a que le son.
Ouais.
Alors, quand on est anglaise...
Mais ça passe un peu.
Ça passe un peu.
Ah, je l'ai
on
entendu.
Passe.
Oui,
la,
ça... Ah.
La tension, la gêne,
ouais.
Le raclement de gorge,
ouais.
Ces bruits de petites cuillères dans la porcelaine, cette mère qui n'arrive pas du tout à parler à ses filles. Quand on est anglaise, le thé, ça reste un rituel, même quand on vit depuis si longtemps en France.
Oui, et ça reste un rituel un petit peu comme ça, parce que le thé, c'est pour être ensemble, mais pas nécessairement parler de quoi que ce soit.
Ah,
come
oui.
And have a cup of tea. Et puis... Et le thé, dès qu'il y a un petit problème, oui, a cup of tea. Et dès qu'il y a un problème ou dès qu'il y a quelque chose que quelqu'un ne va pas, c'est le cup of tea qui va faire le mieux. Donc tout de suite, on fait le cup of tea pour conforter l'autre.
Mais on ne met rien sur la table, pas ce qu'on a dans le ventre, pas ce qu'on a dans la tête.
Non, voilà.
On parle du temps, comme veut le cliché.
Oui,
oui,
oui.
Parfait.
Exact.
Est-ce que vous avez vu votre mère ou votre grand-mère disposer sur la table des petites pâtisseries aussi jolies, mettre un petit bouquet de fleurs fraîches?
On va laisser ça à Jim Jarmusch, parce que lui, quand même, il a créé une table absolument extraordinaire.
Oui, oui.
Qui est un poème, quoi.
Oui, qui est un poème que souvent, il filme en plongée, il filme du dessus. Alors, comment toutes les trois, vous avez fabriqué ce moment d'immense gêne où on sent un arrière-plan tellement chargé entre la mère et les filles, et pourtant il ne se dit rien?
Si, il se dit des gentilles choses.
Voilà.
Il se demande, alors raconte-moi un petit peu, ma chérie, ce que tu fais.
Mm.
Voilà, maintenant, écoutez, donc les réponses, elles savent, vont être très, très, très minimalistes, parce que c'est comme ça qu'ils maintiennent les relations.
Les Anglais? Les Britanniques?
Je dis pas en général, parce que quand je dis que c'est un film très poétique, c'est très imaginé de la condition, voilà, dans les familles, universellement.
Oui.
On peut difficilement se parler. Et très vite, la violence arrive, très vite, on se cogne, très vite, on s'écrase aussi. Mm. Parce que c'est notre terrain d'expérimentation à tous, la famille. On ne sait pas comment faire, mais on sait qu'on ne peut pas à accepter certaines choses. Donc pour accepter certaines voilà, choses qui sont la cassure, par exemple, dans une famille, cette mère a décidé, avec son thérapeute, voilà, parce qu'elle est une écrivaine de
best-seller.
De best-seller romantique.
Ouais.
Donc elle a imaginé, elle a imaginé avec son thérapeute, comment je peux faire pour voir mes enfants pas trop souvent, parce qu'ils se parlent quand même au téléphone, mm-hmm. elles se parlent. Comment je peux maintenir ça comment,
mm-hmm. voilà. Très très belle chanson qui ouvre le film de Jarmusch. On l'écoute.
Of the evening when everything is getting kind of groovy. You call me up and ask me would I like to go with you and see a movie. At first I say no, I've got some plans for tonight, and then I stop and say all right. Love is kind of crazy.
Les Anglais ont la réputation, Charlotte Rampling, de ne peu ou pas exprimer leurs sentiments. C'est vrai ?
Oui, c'est notre culture. Et c'est pour ça qu'on réfléchit un petit peu plus, peut-être, que d'autres, avant qu'on passe à l'acte.
Vous avez été élevée par des parents qui taisaient leurs sentiments ?
Bien sûr. Parce
que vous êtes fille de
colonel. Parce que never explain, never complain. Vous connaissez cette expression ?
Alors, pour moi, ça s'appliquait à la famille royale. On n'explique pas et on ne se plaint pas.
Voilà.
Mais non, c'est quelque chose qui est partagé par tous les
Anglais. Parce que la famille royale est quand même le maman et le papa de tout le pays. Donc, ça reste. C'est dans la culture. On fait avec, on se débrouille. On se démerde comme on peut.
Dans votre histoire que vous avez partiellement dévoilée dans un livre il y a quelques années, qui s'intitulait tout simplement « Qui je suis », vous avez raconté deux moments assez extravagants, assez romanesques, de grand silence familial. Vous avez raconté l'histoire de cette malle que vous récupérez par l'intermédiaire d'un brocanteur et dans laquelle vous découvrez des écrits de votre mère, morte il y a plusieurs années, mais des écrits très intime, des lettres, des journaux intimes, des photos. Comment est-ce que cette malle s'est retrouvée sur un trottoir ? Comment est-ce que cette malle s'est retrouvée chez un brocanteur ? Et puis ensuite, c'est vous qui l'avez récupérée.
Et en fait, dans les journaux, dans les journals of my mother, il n'y avait presque rien, sauf une forme d'imaginaire, un petit peu comme le rôle que je joue dans, maintenant j'ai réfléchi, le film de Jim, qu'elle tombait amoureuse de tous les beaux garçons qui étaient là, les balles. Elle a inventé une vie, peut-être pas inventé, mais c'était un exemple d'une jeunesse soi-disant dorée, mm-hmm. où elle n'était absolument pas dans la réalité des choses.
Mm-hmm.
Parce que, est-ce qu'elle s'enfuyait ou est-ce que c'était la seule réalité qu'elle avait ? C'était d'imaginer qu'elle va peut-être avoir, en touchant la main d'un garçon qu'elle a vu dans un grand bal, parce que c'était pas des aristocrates du tout, mais il y avait cette façon de...
Mais comment tous ces écrits intimes, comment cette malle s'est retrouvée chez un brocanteur ?
Ben ça, c'est... Ça, si vous croyez dans tout ce qui est les forces invisibles du monde à laquelle je crois, parce que ça, on n'est pas que ici, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont apportées vers vous pour.
Vous croyez aux forces invisibles ?
Oui, parce que sinon, comment c'est impossible que ça arrive chez moi. Mais bon, ça, c'est pas impossible. Quelqu'un a voulu que je reçoive ça.
Oui. Et puis l'autre histoire très forte, très puissante, qui a marqué votre jeunesse, c'est la mort de votre sœur. Vous étiez très proches en âge et puis vous vous adoriez toutes les deux. Et c'est aussi une histoire qui est marquée d'un immense silence, d'un immense non-dit. En tout cas, la manière dont vous l'avez racontée, oui. C'est ce que moi j'en ai retenu. C'est-à-dire c'est le non-dit plus que la mort de votre sœur.
Bah, c'était les deux, parce qu'il y avait la mort, il y avait le non-dit de la façon dont elle est morte. Donc, il y avait deux choses.
La façon dont elle est morte, c'est un suicide.
Oui.
Ouais.
Et mon père a dit qu'il ne fallait pas le dire parce que ça allait tuer ma mère. Donc, il fallait garder ce secret entre nous.
Votre mère ne l'a jamais su ?
Je ne sais pas.
Ah, vous
Moi, je pense qu'elle l'a su.
Ouais.
Mais je ne l'ai jamais dit.
Donc, vous avez été élevé dans l'idée que les mots peuvent tuer.
Oui.
Ou que les mots peuvent blesser.
Oui.
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 Et ça, c'est quelque chose que vous avez fait vôtre
Oui, mais on fait tout ça inconsciemment. Et après, dans l'écriture, aussi dans l'expression, comme je fais les films, je peux évacuer beaucoup de choses dans le film. Je peux, même sans le savoir, de travailler avec mon monde émotionnel dans les films, fait que je fais des expériences autres que les gens qui ont une vie plutôt régulière et dans un système. Moi, je n'ai pas de système. Le cinéma n'a aucun système. Quand on joue des rôles, on peut aller n'importe où on veut. Et c'est en fait ça qui m'a permis d'avancer.
Alors, vous êtes devenu, vous qui croyez aux forces de l'invisible, vous êtes devenu, dans ce système qui n'en a pas, vous êtes devenu une sorcière, vous êtes devenu la reine des sorcières, vous êtes devenu la révérende mère dans Dune, le film de Denis Villeneuve.
Si tu n'avais pas été capable de contrôler tes pulsions, tel un animal, nous n'aurions pu te laisser vivre. Tu as hérité d'une trop grande puissance.
Parce que je suis le fils d'un duc.
Parce que tu es le fils de Jessica. Parle-moi de ces rêves.
J'en ai fait un cette nuit.
Qu'as-tu vu ?
Une fille. Sur Arrakis.
Rêves-tu souvent de choses qui se produisent telles que tu les avais rêvées ?
Vous êtes donc la révérende mère dans Dune. Et le troisième volet est très attendu. Il va sortir à la fin de l'année 2026. Et vous me disiez en coulisses... C'est comme si j'avais jamais rien tourné d'autre.
Non, en fait, j'aurais dû dire, non, parce que ça, j'ai dit vite, évidemment. Mais c'est un accumulation de quelque chose. Comment on peut dire accumulation ? C'est-à-dire que les rôles que j'ai choisis, où on m'a choisi de faire, moi, je pouvais dire non. Donc, j'ai choisi ce qu'on m'a offert, j'ai choisi ce qui correspondait à mon voyage intérieur. Quand je parle de l'invisible, ce qui était important pour moi, c'est mon voyage intérieur. Et comme avec ce voyage intérieur, je pouvais... Le donner au monde à travers différentes personnalités dans les films. Donc j'ai choisi un petit peu qui je voulais être sans savoir qui je suis, parce qu'on ne peut pas savoir. Mais le cinéma m'a guidée et j'ai pris comme guide cette demande de gens, parce que je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de tourner. C'est toujours une invitation, moi, un film. Quelqu'un vient vers moi, est-ce que vous voulez participer à ce monde-là dans le monde des films ? Et je dis oui ou non. Et le oui est toujours... a toujours un sens fondamental. Alors ce sens, c'est quoi ? C'est juste que de découvrir pour moi un petit peu le sens de ce que est de vivre.
Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Timothée Chalamet, qui est devenu en quelques mois une sensation mondiale, alors qu'au début du tournage, il était beaucoup moins star qu'aujourd'hui ?
Je l'ai commencé avec lui, il avait déjà fait des choses, mais il avait 22 ans,
c'est
23
ça.
Ans.
C'est ça.
Maintenant, il a à peine 30 ans. Voilà, donc...
Vous l'avez vu grandir.
J'ai vu grandir. Un petit peu, un vrai parent de mère, j'avais un petit, je devais guider ce petit.
Ouais.
Et voilà, il fait magnifiquement bien et je lui souhaite bonne chance parce que d'avoir ce succès aussi grand, aussi puissant, il faut vraiment comprendre, au fur et à mesure, comment la gérer parce qu'il peut être aussi bien. Voilà. Je ne dis pas plus.
Charlotte Rampling, Father, Mother, Sister, Brother, j'ai travaillé mon accent, Jim Jarmusch, Mercredi au cinéma, c'est un lion d'or à Venise, c'est un film absolument exquis. Et puis là maintenant, les Beatles, parce que vous étiez toute petite fille, quand ce... Voilà. Et alors si j'ai bien retenu la leçon...
Toute petite fille, non, j'avais le même âge
que
les Beatles.
Mais alors attendez, parce que là... On voulait écouter All You Need Is Love.
Yeah.
All You Need Is Love.
Yeah, I was 15, 16.
Ah oui, c'est les années 60, non, absolument, vous avez raison.
Ans,
vous avez raison. Ah oui, c'est vous avez raison.
Et j'étais avec eux.
Alors,
c'était mes amis. Hein.
C'est vrai.
Oui, bien sûr.
C'est vrai.
Mais les gens disent c'est vrai, mais on était tous les adolescents ensemble.
OK. Bob's your uncle.
Bob's your uncle.
Bob's your uncle. Merci beaucoup, Charlotte Rampling. Voilà.
Sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in.
can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be.
Et dire que Charlotte Rampling a connu les Beatles. Ils étaient copains. All You Need Is Love, 1967. Vous êtes sur France Inter, il est 9h30. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. À 9h45, Charline Vanhoenacker fera son entrée. Salut Charline.
Oui, bonjour la France Inter. Est-ce que vous vous rappelez d'une année qui aurait bien commencé, vous? Écoutez, c'est pas grave, parce que c'est la rentrée et on n'a pas le temps de s'angoisser. On n'a pas le temps d'aller au boulot, rendez-vous 9h45.
Et puis Daphné Burki nous présentera sa nouvelle tête.
Oui, mais bonne année Sonia, bonne année Charline et bonne année aux auditeurs. Je suis très contente, moi, de la démarrer avec eux. Donc elle démarre bien, Charline.
Elle démarre bien.
Et oui, elle démarrera en musique avec James Baker, chanteur, musicien, producteur, réalisateur, il fait tout.
En attendant 9h30, c'est le débat du jour. Ce petit quart d'heure de débat quotidien pour saisir ce qui nous agite. Bilan des audiences télé 2025. Les chiffres de l'Institut Médiamétrie ont été publiés la semaine dernière. Verdict, CNews, sacrée première chaîne d'info en France avec 3,4% de part d'audience sur l'année. Elle devance pour la première fois BFM TV à 2,8% de part d'audience et creuse encore l'écart avec LCI et France Info. Une progression continue portée par les figures de l'antenne, Pascal Pro, Christine Kelly, Laurence Ferrari, entre autres. Alors, que dit ce succès qui a bousculé le PAF? Est-ce que c'est de la bonne télé ou est-ce que ça se joue ailleurs? Est-ce que c'est le symptôme d'une droitisation française? Est-ce que c'est un espace d'expression qui n'existait pas auparavant? Justement, CNews, robinet opinion ou à information. On en débat avec Éric Nolot, critique littéraire et essayiste, invité régulier de CNews. Bonjour.
Bonjour.
Auteur de La République, c'est lui, aux éditions Fayard, et avec Julia Cagé, bonjour. Économiste, Histoire du conflit politique paru au Seuil, c'est votre dernier ouvrage. Je commence par cette question très simple. Comment vous expliquez ce succès? Est-ce qu'on peut le mettre en mots? Est-ce que vous pouvez nous en donner les raisons? Et on commence avec vous, Éric Nolot. Voix de CNews, une des voix de CNews.
Oui, je dirais concentration de talents sans équivalent ailleurs. Vous en avez cité quelques-uns. Diversité. Sans pareil ailleurs, je parle de génération, je parle d'origine, ça c'est pour l'émetteur. Et pour le récepteur, c'est-à-dire les téléspectateurs, je pense de plus en plus de gens qui ne se sentaient pas ou plus représentés dans les médias se sentent représentés sur CNews. Ils ont l'impression, et je pense que ce n'est pas une impression, c'est une réalité, qu'on parle justement de leur réalité après l'avoir longtemps nié. Donc,
ignoré,
si vous voulez, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas grand mystère dans le succès de CNews, et à mon avis, il ne fait que commencer.
Dans le classement général, Julia Cagé, des chaînes de la TNT, CNews est arrivée donc 6e chaîne de France, juste derrière France 5. Vous l'expliquez comment?
Non, mais il faut le relativiser pour commencer. France 5, c'est 3,5% de part d'audience. France 2, c'est 14,9% de part d'audience. CNews, on met souvent en avant l'heure des pros ou 100% politique le soir. Mmh. En moyenne, l'heure des pros, c'est 500 000 téléspectateurs. 100% politique, c'est 500 000 téléspectateurs. À côté, je sais pas, moi, à tout hasard, la grande matinale de France Inter, c'est 4,9 millions. Mmh. Un journal de France 2 à 20h, c'est autour de 20% de part d'audience. Donc, c'est 3,5 millions de téléspectateurs. Les
donc,
mauvais
soirs. Ça signifie quoi? C'est qu'on est en plein délire collectif en exagérant l'impact et le poids de CNews sur l'opinion française et sur le PAF.
Il y a des choses qu'il faut pas relativiser du tout, et notamment la mainmise de Vincent Bolloré sur tout un écosystème médiatique, pas que CNews.
Qui est donc le propriétaire de CNews.
CNews, Europe 1, Le Journal du Dimanche, un certain nombre de médias qu'il a mis au pas de son idéologie, où il a fait partir des journalistes, parfois il les a licenciés. Il a mis toute une machine au service d'un combat politique, et il a mis à mal aussi le respect du pluralisme interne sur les chaînes de télévision, c'est un véritable problème. Donc ça, il ne faut pas du tout le relativiser.
On va en reparler, ensuite, mais en un instant juste, Éric Nolo, quand Julia Cagé dit « il faut relativiser », on parle de 500 000 personnes au mieux dans la journée. Vous entendez ?
Alors, il faudrait savoir, soit CNews est une hydre qui domine tout le paysage médiatique, soit il n'a aucune importance. Là, j'entends les deux en même temps, c'est un peu curieux. Ensuite, 500 000, il y a des émissions qui font bien plus.
Qui montent jusqu'au million.
Qui passent le million. Moi, je ne crois pas quand même que le mépris soit une bonne grille d'analyse.
Non, c'est mépris envers. Non, mais c'est relativisé.
Il se passe quelque chose. Indiscutablement, il se passe quelque chose. Cette montée continue, c'est pas seulement un petit pic, c'est une montée, mois après mois, année après année, si bien que maintenant c'est en tête, et je vous répète que ça ne fait que commencer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. C'est la raison de notre débat. Je vous dis, il y a des gens qui ne se sentaient pas représentés et qui tout d'un coup se trouvent représentés. Vous leur parlez de ce qui leur arrive.
Julia Cagé.
Ce qui les intéresse.
Alors, c'est assez intéressant. C'est sûr que vous avez une audience sur CNews qui est une audience captive. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de regarder la différence entre la part d'audience de CNews et le nombre de personnes touchées. CNews a une part d'audience plus importante que BFM, par exemple, mais avec moins de téléspectateurs touchés parce que les gens regardent CNews plus longtemps. Moi, ça m'intéresse de comprendre pourquoi. Et en fait, ce qui est en train de se passer sur CNews, et c'est pour ça que je ne méprise pas du tout, au contraire, mais je parle d'un écosystème médiatique où vous avez les mêmes personnalités, les mêmes journalistes qui écrivent dans le Journal du Dimanche, qui sont sur Europe 1, qui sont sur CNews. Donc, c'est plus large que CNews.
Justement, ce petit théâtre de visages récurrents, rassurants, ça fonctionne.
Au-delà d'un écosystème médiatique, c'est un écosystème médiatique et éditorial aujourd'hui, puisque vous avez aussi Fayard, etc., un certain nombre de maisons d'édition également possédées par Vincent Bolloré. Et en fait, tout ça, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est en train d'enfermer un certain nombre de téléspectateurs et de citoyens. Et je dis ça sans mépriser ces téléspectateurs et ces citoyens, au contraire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit dans une démocratie fonctionnelle. Or, je pense que dans cet écosystème-là, ils sont enfermés dans une bulle de filtre. Une bulle où on les alimente aux faits divers, les alimente à la peur, on les alimente aux attaques contre l'immigration, les plus fragiles, etc. Et en fait, le non-respect du pluralisme et du débat finalement ouvert sur CNews, ça fait partie des problèmes qui sont posés aujourd'hui.
Non, mais c'est terrible ce que vous dites. Bon, d'abord, vous découvrez la logique de groupe en 2026. Bon, bah, écoutez...
Oh, j'ai écrit dessus depuis une dizaine d'années.
Oui, justement, vous avez l'air de la découvrir. Et ensuite, écoutez, moi je vous renvoie à une tribune d'une femme de gauche, une grande femme de gauche, une grande femme de théâtre, Ariane Mnouchkine. Mnouchkine a dit... La gauche est très responsable parce que pendant des années, elle a expliqué aux gens qu'ils ne vivaient pas ce qu'ils vivaient, qu'ils ne subissaient pas ce qu'ils vivaient. Et dans la situation, la dégradation de la situation politique en France, la gauche porte une terrible responsabilité. Apparemment, vous n'avez pas compris, vous recommencez. C'est-à-dire, vous parlez de ces gens comme des gens captifs. Ils sont prisonniers. Non, ils ne sont pas prisonniers. Ils viennent s'informer et il se trouve que l'information qu'ils leur est donnée leur convient parce que tout d'un coup, on parle de leurs préoccupations. Ce qui n'est pas le cas sur d'autres chaînes. On est dans la réalité. Malheureusement, vous n'avez pas lu ou vous n'avez pas édité assez.
Cette tribune d'Ariane Mnouchkine.
Non, mais ne dites pas que ces gens sont prisonniers, c'est terrible ce que vous dites. Non. Ils ne sont pas prisonniers, ils choisissent librement une chaîne plutôt qu'une autre. Ça a l'air de vous déranger, je comprends, mais vous devriez vous habituer parce que les chiffres vont encore grimper.
Est-ce que c'est un symptôme, selon vous, l'un et l'autre, d'une droitisation de l'opinion ? On va en parler, d'ailleurs, est-ce que c'est une chaîne de droite ou pas ? Ou d'une polarisation de l'opinion ? Vous diriez quoi, Julia Cagé ?
Alors, déjà, il y a la question de l'œuf ou la poule. Il faut savoir que cet écosystème médiatique qui a été mis en œuvre et en place, ce groupe qui a été construit méthodologiquement, et vous exagérez un peu, vous parlez de mépris, mais quand vous dites que je le découvre, c'est à peu près depuis 2013 ou 2014 que j'écris sur ce sujet et que je le dénonce par contre.
Ça
c'est
tout
à fait, c'est tout à fait différent. Ça a été mis au service d'un combat politique. Et CNews, Europe 1, le Journal du Dimanche ont une partie de responsabilité, dans l'augmentation de la popularité de la droite, du Rassemblement National. Il y a eu la campagne qui a été faite autour d'Éric Zemmour en 2021, 2022. Il avait eu une heure d'antenne tous les soirs sur CNews dès 2019, d'ailleurs avec un certain succès d'audience. Donc il y a déjà une responsabilité dans la droitisation. Ça, c'est la première chose. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui n'a pas été inventé en France, qu'on a vu pendant longtemps aux États-Unis,
ça,
notamment avec
Fox News et l'œuf ou la poule.
Je ne comprends pas. Ou alors, il faut décider que la réalité est de droite. Alors, pourquoi parler de la réalité serait d'extrême droite ? Moi, d'ailleurs...
Je n'ai pas prononcé le mot extrême droite, monsieur.
Apparemment, quand vous citez Zemmour et ça, c'est plutôt ce camp-là que vous visez. Moi, j'ai l'impression, d'un point de vue de gauche, que les thèmes, par exemple, de l'insécurité, de l'immigration incontrôlée, sont des thèmes de gauche, parce que ceux qui la subissent sont les plus faibles d'entre nous. Et moi, en tant qu'homme de gauche, je pense que c'est sur ces thèmes-là qu'il faut insister, parce que ce sont les plus faibles d'entre nous qui le subissent, c'est pas vous,
alors après,
c'est pas moi.
Je précise néanmoins, parce qu'il y a eu polémique au moment de la diffusion du complément d'enquête sur France 2 récemment, donc enquête de l'ARCOM, enquête de Mediapart, enquête de Libération, on a compté au mois de mars 2025, heure par heure, ce qui est...
Les sujets
traités et surtout les gens invités, il en ressort quand même que la droite et l'extrême droite sont massivement représentées, la gauche est surtout représentée la nuit.
Oui, il n'y a pas un respect des règles de pluralisme interne. Il y a eu quand même plusieurs rappels.
Comme dit le contraire.
C'est
vous l'autorité.
Le Conseil d'État a rappelé à l'ARCOM ses obligations et notamment de prendre en compte, au-delà des seules personnalités politiques, l'ensemble du spectre politique qui pouvait s'exprimer sur les différentes antennes. D'ailleurs, ça ne s'applique pas qu'à CNews, hein, ça s'applique à l'ensemble de la TNT et aussi aux radios, que ce soit les radios publiques ou les radios privées. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a eu plusieurs rappels à l'ordre qui ont été faits précédemment, y compris historiquement, sur le fait de respecter non seulement, on va dire, la lettre, mais au moins l'esprit du pluralisme interne. Et c'est vrai que diffuser la gauche en permanence pendant la nuit à 2 ou 3 heures du matin en boucle les mêmes meetings et donner plus d'importance à un certain nombre de partis de droite et à la droite de la droite pendant la journée, c'est un non-respect du pluralisme interne. Mais ensuite, j'ai tout à fait entendu les auditions qui ont été menées, notamment dans le cadre de la nouvelle commission d'enquête. Je ne sais pas si enquête, c'est le bon mot, mis en place à l'Assemblée nationale par l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Et c'est vrai qu'il y a la revendication de pouvoir faire de CNews une chaîne qui ne serait plus une chaîne d'information. Enfin, ça fait longtemps que ça ne l'est plus, parce que ça ne fait plus d'information au sens propre du terme. Il y a eu des journalistes qui ont été licenciés, etc. Une chaîne d'opinion. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il est dangereux pour une démocratie. Ça peut être très bon pour de l'audience, ça peut être très bon pour des chiffres d'affaires. On peut parler du chiffre d'affaires
mais
de CNews.
Mais pourquoi vous êtes consterné, Éric Nolot ?
L'équilibre, mais ça me paraît important qu'une chaîne d'information, un, produise de l'information factuelle et deux, respecte le pluralisme, c'est-à-dire une juste représentation.
Je ne sais pas du haut de quelle autorité vous parlez.
De la loi de 1986.
Non, mais vous estimez que les gens qui regardent CNews sont prisonniers.
Non,
vous
je
estimez
regarde
que,
CNews.
Je peux terminer si vous permettez. Vous estimez que la commission d'enquête, vous mettez des guillemets, ce n'est pas vraiment une enquête et vous estimez que ça devrait être ceci ou cela.
Les auditions
moi, je vous
ont été
chose,
suspendues par la présidence de l'Assemblée nationale.
Moi, j'ai l'impression que, comme les vampires craignent la lumière, ça les tue, la gauche craint la réalité et c'est en train de la tuer. C'est ça qui est en train de se passer. CNews parle de la réalité, de ce que vivent les Français, de ce qui les intéresse, de la France, non pas telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle est. Ça intéresse de plus en plus de personnes. Vous n'essayez pas d'analyser le phénomène, vous dites non, mais
je voudrais simplement comprendre.
Et vous visez seulement l'audimat.
Ce rapport au réel, est-ce que vous fabriquez avec le réel ? C'est-à-dire sur France Inter, on ne parle pas de la réalité. Sur RTL, on ne parle pas de la réalité. Je voudrais savoir, sur France 2, on ne parle pas de la réalité. Sur TF1, on ne parle pas de la réalité.
Sur France
dans le monde,
5,
le Figaro.
Qui fait mieux en part d'audience.
Non, mais on ne parle pas de la réalité. C'est-à-dire que 9 millions de personnes regardent les journaux télévisés le soir à 20h. Ils regardent quelque chose qui est une fiction.
Non, je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste que rendre compte de la réalité se double, dans le cas de certains médias, d'un agenda idéologique, d'un agenda progressiste. Progressiste, je mets des guillemets parce que c'est le progressisme entendu par ces gens-là. C'est pas le progressisme tel que je l'entends.
Il n'y a pas d'agenda idéologique sur CNews.
Moi, je ne crois pas.
Mais alors, dans ce cas-là, monsieur Nolot, si c'est ça que vous entendez, je pense qu'encore une fois, avec 20% de part d'audience pour France 2, une audience supérieure sur France 5 à celle de CNews et 4,9 millions de téléspectateurs, d'auditeurs chaque jour sur France Inter, on devrait avoir une vague nouveau front populaire extraordinaire en 2027. Vous voyez bien que c'est complètement faux ce que vous dites. Si vous pensez que tous les médias de l'audiovisuel public ou les autres médias que vous pointez du doigt, défendre un agenda politique
avec
sauf CNews.
J'en suis certain.
Alors dans ce cas-là, il y a une petite contradiction
moi, j'ai été pendant longtemps un auditeur passionné du service public et même exclusif du service public. J'ai vu au fil du temps, au fil des années, une dérive idéologique. D'ailleurs, je ne peux plus ouvrir maintenant mes chaînes préférées sans tomber sur un des mots-clés de l'époque, un agenda progressiste. C'est pas ça que j'attends. J'attends une information. J'attends pas une rééducation. J'attends pas qu'on m'éduque. Et les gens qui, maintenant, se tournent vers CNews, on en marre d'être rééduqués par le camp progressiste.
C'est un repli et c'est vraiment dû à l'agenda progressiste qui est donc dominant dans les les autres, dans les autres médias, qui fait le succès
de CNews. C'est pas un repli. Pourquoi ce vocabulaire négatif? Je cite encore Ariane Mnouchine qui dit « On a d'abord pris les gens, ces gens-là, pour des crétins, et ensuite on les a pris pour des salauds. CNews ne prend pas les gens pour des crétins ou des salauds. Ah bah, à mon avis, ça explique son succès. »
Je pense que vous prenez les auditeurs de l'audiovisuel public pour des crétins, mais c'est pas très grave. Mais ce que je veux dire, c'est que vous parlez des Français. Moi, je regarde les enquêtes, je regarde les chiffres. Il y a une enquête qui a été menée, alors pas par un institut français, donc vous n'y verrez pas de biais, par le Reuters Institute, qui publie chaque année une grande enquête sur le rapport des Français aux médias. La confiance dans l'audiovisuel public, elle est de 55% pour France Info, 51% de France Inter, bien au-delà de ce qu'on a pour CNews, où on est à 41%. En fait, aujourd'hui, les Français, dans leur majorité, font davantage confiance à l'audiovisuel public qu'à l'audiovisuel privé, et en particulier qu'à CNews. Pourquoi?
Je
parle des chiffres de 2020.
Éric Nolot, de tendance, et vous dites, ça va monter.
À partir de 3-4,
c'est pas visible. Pardonnez-moi, mais le service public est quand même beaucoup plus ancien que CNews. Vous comparez des gens qui sont pas partis au même moment.
Mais c'est sûr que puisque Vincent Bolloré a détruit télé, on a perdu un peu d'histoire.
Vous serez les bienvenus pour en rediscuter. On verra comment évolue la tendance cette année. Merci beaucoup Julia Cagé. Merci Éric Nolot. Le choix musical de la grande matinale ce matin, c'est la chanteuse Lynn. Elle sort son album le 16 janvier. En playlist sur France Inter, un choix de notre programmatrice préférée à qui on envoie tous nos voeux, c'est Valentine Chedebois. Charline Vanhoenacker, dites donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année ?
Non, mais pas la peine de me souhaiter bonne année, Sonia. J'ai un très bon pressentiment pour 2026. Rien que le débat qui vient d'avoir lieu, là, juste avant ma chronique, oh là, quelle bouffée d'espoir, je dirais. Merci aux auditeurs qui sont restés jusqu'ici. Alors, ils ont bien fait parce que moi, plus c'est le foutoir, plus j'ai de quoi faire, vraiment. Les décisions de Donald Trump, c'est mon petit pétrole à moi. Je le raffine pour que l'actu passe mieux. Ouais. Après, bon, je ne suis pas aussi feel good qu'Ali Rebéi, n'est-ce pas, Ali? Mais il n'est plus là pendant ma chronique.
Non, il est là à 10h.
Ah, mais c'est passé quoi? Ne me dites pas qu'il a été arrêté cette nuit par les États-Unis avec son épouse Mathilde Serrel. Et puis là non plus. Putain, ils l'ont exfiltré du pays en claquette. Je savais que ça finirait comme ça. Ça, c'est son sujet de l'an dernier, Ali. Y a-t-il du pétrole dans la vinaigrette?
Ça doit être.
Vous vous rappelez de cette époque? Oh là là, c'était il y a 5 jours. C'était l'an dernier. C'était il y a un siècle. Ali, il était là, dans le studio, et il annonçait son thème. Et moi, je répondais, du pétrole dans la vinaigrette. Mais c'est pour faire tourner les cereuses à salade plus vite. Il riait. Oh, il va me manquer. De toute façon, vous avez vu, la période des fêtes a été chargée en disparitions célèbres. Hein. Brigitte Bardot, la grande matinale.
Mais il n'est pas mort à Lille.
Ensuite, il y a eu le décès du droit international. Et maintenant, Ali et Mathilde. Il n'est pas mort, mais on veut une preuve de vie. Voilà. Tout ça pendant les fêtes, pendant qu'on se faisait livrer des colis. Trump, il se faisait livrer le président du Venezuela, lui. C'est fou de lutter à ce point contre le narcotrafic. Tout ça pour assouvir son addiction au pétrole. Trump, quand il veut faire le plein, il ne va pas juste à la pompe. Il kidnappe le pompiste et s'installe dans la station-service. Bon, pour le président américain, le Venezuela, c'est un petit peu sa Cisjordanie. Et Macron a réagi, évidemment. Il a mis un petit cœur à Trump. Oh, trop mignon. Et alors, les réactions ont fusé. Hein. L'Europe a répliqué en bombardant Trump d'une bonne dizaine de communiqués de presse. Si elle envisage le recours aux déclarations télévisées, je crois que ça va être l'escalade. La prochaine cible, c'est la Colombie, à cause du narcotrafic, toujours. Et donc, l'état d'après, c'est... Ah ben c'est Marseille, c'est Marseille. J'espère que Benoît Payan a fait installer un bon verrou à la porte de sa chambre. En tout cas, je lui conseille de dormir tout habillé. Non mais vous voyez, ça c'était une question pour Alice à l'époque. Ça, c'était. Dormir nu ou habillé favorise-t-il l'hypertension? Voilà, ben voilà, mais comme il est plus là, ça marche moins bien. Mais ça marche moins bien. Non, j'attends de voir, j'attends des preuves. Trump, ça fait des mois qu'il préparait l'opération à Caracas. Oui, lui aussi, Daphné, il préparait en secret. Et pendant ce temps, il nous faisait croire qu'il allait annexer le Groenland. Seulement, il n'a pas réussi à choper les ours blancs pour trafic de drogue. Alors, on voit bien que Trump a gardé le sens des affaires. Des litres et des hectolitres de pétrole en échange d'une petite goutte de démocratie. Hein, on n'est pas bien, là, entre la Chine, les États-Unis, la Russie, qui se partagent le monde, avec comme principale arme de dissuasion le regard perçant de Jean-Noël Barrot. Oui, qui c'est lui? On a une preuve de vie aussi. Vous voyez, pour tout le monde, la situation internationale, c'est l'angoisse, mais pour moi, c'est un régal, vraiment. D'ailleurs, si l'actualité et les débats vous stressent et que vous coupez les infos, mon petit conseil, vous pouvez podcaster cette chronique.
Allez.
Hey, quitte à réduire la grande matinale, je vous propose une mini matinale.
Oh, à vous toute seule.
Allez,
voilà, c'était Charline Van Honecker.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki, le retour, et sa nouvelle tête.
Oh, mais oui, il est toujours 9h50, les amis. Nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Et ce matin, ma nouvelle tête s'appelle James Baker, chanteur, compositeur, producteur et réalisateur. Oui, parce qu'au départ, en fait, il voulait être magicien, figurez-vous, puis faire du cinéma. Et puis finalement, bah, ce sera la musique, c'est l'endroit le plus simple pour faire tout ça, pour que tout tienne ensemble, finalement. Sa silhouette est déjà un personnage. Une sorte de retour vers le futur permanent, comme le film culte de son enfance. Mulet bouclé. Petite moustache, on ne rechigne pas d'ailleurs devant un pantalon pas de def. Un amour assumé pour les synthés FM et des clips filmés à la mini DV parce que chez lui, la mémoire doit avoir du grain, mais sa musique aussi. James Baker sort un double EP qui s'appelle Romy Rose, une pop mélancolique, très cinématographique, faite de souvenirs, de déni, de vertiges amoureux. James Baker parle beaucoup de James Baker. Mais il le fait avec une grande lucidité et une vraie musicalité. Alors résultat, ça donne des chansons qui retardent un peu, vous savez, le moment où l'on se décide à aller consulter un psy. Alors moi, je trouve que le meilleur moyen de vous le présenter en ce début d'année, c'est d'être dans Nouvelle Tête sur France Inter. Bienvenue James Baker, la DeLorean est garée juste devant le studio. Comment ça va ?
Ah, super, merci beaucoup de m'inviter ici.
Très contente que vous soyez là. Vous sortez ce double EP. La première partie est sortie en septembre, Sonia. La deuxième sort cette semaine, Charline. Il s'appelle Romy Rose et il est inspiré d'un film culte de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Vous vous souvenez, c'est un film où Michel Gondry décide qu'il faudrait effacer les souvenirs amoureux pour moins souffrir. Pourquoi ce film-là ?
Mais écoutez, je trouve que ce film, il est universel sur son langage de l'amour. En fait, il raconte quelque chose de super important, c'est qu'il y a toujours de l'espoir, même si c'est douloureux, même si c'est triste. Et c'est par là, je pense qu'il touche beaucoup de gens, et notamment moi, et qui m'inspire.
Vous l'avez rencontré, Michel Gondry ?
Pas du tout.
Jamais ?
J'aimerais beaucoup.
Bon, bah alors on tente un message à tout hasard. Le jeune chanteur James Baker attend son idole, le réalisateur Michel Gondry, à l'accueil de France Inter. Je répète, James Baker est en sécurité, on lui a donné un petit goûter. Vous avez 10 secondes, vous le rencontrez, vous lui dites quoi ?
Super dur. Déjà, merci de m'avoir inspiré tout un projet de 10 titres. Et franchement, fort, hein, respect.
Ces 10 titres, ils sont super beaux. On vous entend d'ailleurs parler de cette fragilité amoureuse très clairement dans « Je t'aime un peu ». L'amour fait l'hypocondrie.
Je t'aime un peu.
Aimer, c'est forcément s'inquiéter, James Baker ?
Je pense pas forcément, mais à mon niveau, encore un petit peu.
Il y a 24 ans. Michel Gondry, il explique qu'il ne commence jamais ses films sans une histoire. Il ne commence jamais par une histoire, il commence par une sensation, en tout cas une émotion qu'il aimerait produire, et parfois même une idée qui serait presque impossible à filmer. Vous, quand vous démarrez l'une de vos chansons que je conseille aux auditeurs ce matin, vous commencez par quoi ?
Bah moi, justement, j'ai un peu le processus inverse. Je commence souvent par la forme, par quelque chose qui va me donner un mood, finalement, peut-être une émotion aussi, mais c'est pas une sensation, je dirais. Je dirais, c'est plus quelque chose qui raconte quelque chose, une histoire, par exemple, qui va m'inspirer plusieurs sujets, plusieurs morceaux que j'ai envie d'écrire, par exemple. Mais justement, c'est aussi pour ça que je l'admire, je pense, c'est parce que j'essaye aussi d'aller trouver d'abord le fond avant la forme, je pense que c'est le plus important.
Et ça parle donc de mémoire amoureuse, de relations très contemporaines, hyper conscientes, parfois paralysées par vraiment trop de lucidité, comme on écoute « J'espère » entre parenthèses « pas ».
Oh, j'espère que toi tu n'espères pas, que moi j'espère faire des trucs avec toi. Oh non, j'espère pas. Oh, mais j'espère quand même qu'on se laisse faire, car au fond moi j'espère pouvoir finir avec.
Alors certains diront aujourd'hui que c'est le portrait type de l'évitant. Voilà, ça, je le dis comme ça. Question un peu cruelle mais honnête. Hein. En 2026, qu'est-ce qui est le plus compliqué à faire fonctionner selon vous ? Percer dans la musique ou réussir une relation amoureuse en 2026 ?
Allez, deux vont ensemble, hein. Je pense que ça touche aux mêmes problématiques.
Réaliser une relation avec Michel Gondry.
Mais il va peut-être appeler d'ici là. Michel, vous pouvez appeler le standard, évidemment, de France Inter, il est toujours ouvert. Avant de faire de la musique, vous vouliez donc être magicien. Il paraît que vous connaissez encore des tours ?
Oui, je connais des tours. Ouais.
C'était vraiment une obsession à l'époque ?
Ouais, je voulais être magicien. D'ailleurs, c'est ce qui m'a lancé sur la passion du cinéma. C'est les effets spéciaux, c'est un peu...
Quoi, par exemple ? Comme tour ?
Plein de tours.
Genre ?
De cartes... Les pièces...
Tout faire, ouais. Elle a envie d'un tour hyper spécial, Sonia. Parce que dans son projet, ce qui m'intéresse, c'est comme les magiciens, il y a des interludes. J'aime beaucoup ça dans les albums. Vous savez, tout d'un coup, la musique change de rythme, ralentit, devient un peu différente. Dans ce projet, il y a cette interlude. C'est au moment où le magicien prépare son tour. Et dans cet interlude, celui-ci de Romy Rose, il y a « Je ne suis pas Daft Punk », on reconnaît d'ailleurs. Hein. Ce serait parfait de faire en feat avec Michel Gondry et les Daft Punk.
Ah mais ça serait ouf, ça serait incroyable.
Ouais. Un deuxième appel à la radio ce
ouais,
matin.
S'il vous plaît.
On relance un appel, Maria, en régie,
peut-être
je sais pas,
Michel,
peut-être.
Peut-être que c'est un des Daft Punk, on sait
pas. Peut-être qu'on peut se dire ça. Alors, dans quelques instants, là, vous allez jouer Romy en live dans ce studio de France Inter. Pourquoi cette chanson ?
Écoutez, je pense que c'est une de mes chansons préférées de ce projet. Du coup, c'est aussi pour ça que j'aime la jouer, j'aime la chanter... Et c'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui.
Elle vous présente alors James Baker, le studio de France Inter, est tout à vous.
Tous ceux qui disent en parlant de mes disques que je me déguise disent tous vrai. Ma tête est lourde, remplie de mes doutes. Si personne ne m'écoute, qui pourra m'aider ? Syndrome du sauveur, je me prenais pour le god. Ce n'est pas dans mes cordes d'être dans les codes. Et faire le bien, j'ai voulu essayer. Mais c'est beaucoup trop Dieu que j'ai dû essuyer. Doué pour raconter des histoires, étaler mes victoires alors que je suis qu'un. S'ils parlent de moi mais ils disent quoi, je ne suis qu'un gars qui se voit la face comme un. J'enchaîne les clopes plus vite que mon ombre. Mets du respect sur ma glotte et sur mon nom. J'fais le mec sûr alors que mes peaux mettent dessus. Dans ma tête c'est merde, oula. Ok ouais j'suis un chouïa, ok. Doué pour raconter des histoires, étaler mes victoires alors que j'suis qu'un. S'ils parlent de moi mais ils disent quoi, je ne suis qu'un gars qui se voit la face comme un.
James Baker en live dans ce studio. Merci beaucoup. Alors pour finir, évidemment, est-ce que vous auriez une dédicace en particulier ce matin?
Oui, une petite dédicace à JB de Tales from the Click, qui est une chaîne de podcast et une chaîne YouTube de cinéma que j'écoute beaucoup. Voilà. Pourquoi, que je conseille d'ailleurs.
Et pourquoi vous la conseillez aux auditeurs ce matin?
Bah écoutez, je pense que ça fait partie de mon quotidien. Je ne sais pas pourquoi je la conseille, je pense que je l'apprécie assez pour la conseiller.
Alors moi, je vous conseille ce double P, il s'appelle Romy Rose, il sort le 16 janvier, la deuxième partie, et puis surtout de partir le 6 octobre. Vous pouvez déjà réserver vos places pour le Trianon. Merci beaucoup d'avoir été
Merci avec beaucoup.
Et moi, je voudrais dire quelque chose à James. Aimer, c'est s'inquiéter. Et ça, ça dure toute la vie. Voilà. Alors, dans un instant, vous aurez Ali Rebéi. Bon, on n'a pas encore de preuve de vie, mais ça va venir, Ali. Le standard est ouvert, 0145 24 7000. Pour les Daft Punk et pour Gondry, s'ils veulent appeler James, je crois qu'Ali est arrivé. Ali,
oui, bonjour,
Ali.
Sonia.
Alors, quoi au menu aujourd'hui?
Sonia.
Bonjour.
Eh bien, ce matin, comment perdre du poids? Après 40 ans, 50 ans et plus sans régime et sans injonction, n'hésitez pas à appeler nombreux le standard et WhatsApp au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France.
Merci, ça sera à tout à l'heure, juste après les infos. Et un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Matinale qui prépare les émissions cette semaine, à la rédaction en chef François Greffier, Thibaut Cavaillès, assisté de Swad Bellani, à la technique Pauline Laverdure, Corentin Rouchy, à la réalisation Maria Pasquet et Christophe Imbert. Programmation, documentation, attention, c'est la Dream Team. Alexandre Gilardi, Amélie Stadelman, Perrine Malinge, Mathilde Clatte, Joachim Taïeb, Capucine Aubert, Jean Brossier, Juliette Drone, Alexandra Brouillet, Cléa Journeau, Mao de Butler, et merci à tous les standardistes. Waouh, les infos à suivre.